Christian Oster, je vous souhaite la bienvenue au nom de la librairie Mola. Vous êtes à Bordeaux ce soir pour présenter votre livre En ville. Ce livre, vous le publiez, vous l'avez publié il y a quelques jours aux éditions de l'Olivier. Il est en rupture avec le précédent Roulé que vous avez publié en 2011. Le point de départ prend quasiment le contre-pied de celui de Roulé. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Bah oui, parce que Roulé, c'était un roman de route, pour dire des choses vite, qui en fait systématisait les choix que j'avais faits précédemment dans tous mes romans, qui étaient des choix de déplacement géographique. Et là, je me suis dit que comme j'avais atteint un peu une limite, j'allais prendre le contre-pied et faire un roman, ce que je n'ai jamais fait pour le coup, et qui serait géographiquement, pour l'essentiel, immobile. Quoi qu'on m'ait fait remarquer que le personnage se déplaçait tout le temps, mais à l'intérieur d'une zone réduite qui est Paris et un peu sa banlieue vers la fin. Et d'une part, d'autre part, Roulé était un roman pratiquement behavioriste, c'est-à-dire où le personnage, le narrateur, était, malgré cette première personne, pris en extériorité. On ne savait pas grand-chose de lui. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose non plus de ce narrateur-là. Mais néanmoins, on dit quand même, il parle beaucoup plus, il s'exprime davantage. Et donc, il y avait ce choix de ne pas me contraindre à ce niveau-là, au niveau de la vue en extérieur, mais au contraire, me laisser toute liberté sur le plan du soliloque, de voir de la digression, pour autant qu'elle ne m'éloignait pas de mon projet d'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, cette évolution dans l'écriture pour En ville est un petit peu due à la lecture des romans de ma femme, qui part aussi, qui n'a pas de scénario du tout établi, et qui avance comme ça dans la phrase, et qui m'arrivait aussi, mais là je l'ai un peu systématisé. En tout cas, je me suis donné moi toute cette liberté, et voilà. Donc ça.
Si vous me permettez pour l'assistance, on peut dire que le personnage narrateur de Roulé quittait Paris pour aller prendre la direction du Sud, et là les personnages, et notamment le narrateur qui porte le même prénom, sauf erreur de ma part.
C'est juste une erreur de la mienne.
Bon,
c'est j'ai oublié que j'avais appelé le même Jean. Parce qu'en fait, mes narrateurs s'appellent toujours Jean, Paul, Georges, enfin, donc voilà, des monosyllabes. Et là, je me suis planté, j'ai repris le même nom et on m'a dit, ah, c'est le même nom, etc. Bon, voilà.
Le lecteur que je suis de Christian Oster a remarqué qu'effectivement, c'était Jean. Donc je me suis dit, tiens, il y a un élément de continuité. Il n'empêche que le narrateur de En ville, qui s'appelle Jean, mais qu'importe.
Oui.
Appartient à un groupe sans véritablement être intégré à ce groupe. Il y a un projet, c'est de quitter la ville. Et en fait, pendant tout le roman, il y a des discussions, il y a des rebondissements, des rebonds même, je préférais le terme de rebond, dans l'intrigue, parce qu'on prépare ce départ. Il s'agit d'un départ en vacances. Ce groupe, qui se qualifie groupe d'amis, a l'habitude de partir ensemble en vacances. Et l'intrigue est suspendue, il n'y a pas de fin de l'intrigue, il y a un suspens d'intrigue quand ils partent. Voilà, je dis cela pour l'assistance, pour les personnes qui n'ont pas encore lu votre roman. Il me semble, j'aimerais peut-être vous entendre sur ce point, que dans l'économie de la phrase, dans la construction même de la narration, il y a une différence sensible entre Roulé et En ville. Vous avez employé à l'instant le terme de soliloque. J'ai été un peu surpris par assez peu de paragraphes, des phrases très longues, quasiment des périodes, une sorte de coagulation de moments observés et aussi de paroles entendues et rapportées. Il y a là, me semble-t-il, je l'ai perçu ainsi, je l'ai interprété ainsi, un procès d'écriture qui serait presque un procès sans sujet.
Pour ce qui est de la phrase longue, etc., ramification, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu des influences littéraires. qui sont réels. D'ailleurs, j'en ai toujours quand j'écris des livres, mais là, c'était singulièrement marqué. Oui, enfin, la phrase, malgré ses ramifications, qui ne sont pas non plus, faut pas exagérer, elles ne sont pas proustiennes déjà, ces ramifications, elles procèdent par accumulation plutôt, ne me font pas du tout jamais perdre de vue l'histoire que j'entends raconter. C'est juste que j'ai pris le temps entre chaque épisode ou chaque, ce que vous appelez rebond, d'y aller et de me donner toute liberté pour aller au bout de quelque chose, soit d'une digression, d'une pensée, mais sans jamais quitter ma trajectoire. Car, malgré tout, à chaque fois que j'écris un roman, j'ai une trajectoire à laquelle, pour l'essentiel, je me tiens.
Vous avez parlé, dans des entretiens que vous avez accordés ces derniers jours, d'un plan évolutif. J'en déduis que par rapport à un schéma narratif, vous êtes peut-être l'écriture même vous a entraîné au-delà de ce que vous aviez envisagé dans un premier temps.
Au-delà, je sais pas. Enfin, ça m'a permis effectivement de faire évoluer légèrement mon écriture. Maintenant, au-delà dans le projet romanesque, je ne sais pas, je ne pense pas. Enfin, encore une fois, la trajectoire que je m'étais fixée, je l'ai respectée. Voilà, j'écris toujours un plan, enfin, ne serait-ce qu'ébauché, mais donc voilà, je me suis pas égaré. Enfin, c'était pour moi, je vous dis juste. Effectivement, vous parliez d'une chose qui est tout à fait singulière aussi, c'est effectivement des paragraphes très longs, mais ça aussi, c'est mes influences littéraires. Et c'est aussi la résultante d'une liberté que je me suis donnée dans ce domaine. Voilà.
Alors, En ville, c'est un roman de la ville, c'est un roman dans lequel on peut dire Paris est non pas célébré, mais la ville de Paris est détruite, certains quartiers, avec beaucoup de précision. Je pense à au front de Seine, aux berges, le quartier de Port-Royal, Cochin, les abords du Luxembourg. Il y a une véritable déambulation des personnages. On pourrait cartographier cela. Et le lecteur que je suis est sorti de la lecture d'Anville avec l'impression que cette cité, c'est une cité qui, si vous me permettez le néologisme, atomise les individus. Le groupe d'amis, on va y revenir, si vous en êtes d'accord, dans quelques instants, ce groupe d'amis vit avec les autres, mais en même temps, chacun qui constitue ce groupe est un atome isolé. Le point de tangence est très faible et très ténu entre le groupe et le social.
Oui, oui, c'est vrai. Isolé, on pourrait même ajouter seul, puisque, en fait, ses amis ne sont pas à proprement parler des amis, mais est-ce que les amis sont à proprement parler des amis? Ça pose cette question aussi. Puisque ce sont des gens qui ne se retrouvent que pour des... Ils sont aperçus qu'en fait, ils s'entendaient bien en vacances. Le reste du temps, ils ne se voient pas beaucoup. C'est une forme de camaraderie, en tout cas, si ce n'est d'amitié. Et apparemment, ils sont, à part c'est justement cette communauté-là, ils sont relativement isolés. Mais bon, moi, j'écris beaucoup sur la solitude. Enfin, je pense que la solitude est quand même le fondement de l'humain. Et ça m'intéresse beaucoup, de même que notre finitude également. Et donc, c'est mon sujet, de même que le temps, le passage du temps. Et quant à la ville... quant à la ville de Paris, je ne la décris pas tant que ça, finalement, mais moi, je suis parisien, je suis né à Paris, j'aime beaucoup cette ville, mais comme pour moi, le roman, c'est le territoire de l'invention, je n'ai jamais évoqué Paris, pratiquement, dans mes romans, puisque, précisément, j'avais besoin d'être ailleurs que là où j'étais. Et donc, c'était aussi un des défis de ce roman-là, c'était de parler... pas de façon très étendue et exhaustive, mais quand même de parler un peu de cette ville.
Alors, si vous me permettez, ce groupe d'amis, je dirais au sens actuel du terme, jadis nous aurions peut-être employé le terme de relations, ce sont des relations, plutôt que des amis. On peut dire ça. Ce qui les cimente, c'est justement cet espace des vacances qui est un espace en partie en dehors du social, puisque en dehors de ces vacances communes, quand ils sont les uns et les autres au travail, quand ils sont dans leur quotidien, ils se voient peu, ils se connaissent peu, ils ignorent un certain nombre de choses quant à leur passé, quant à leur passion. Ce groupe d'amis, de cinq personnages principaux, il y a Georges qui vient d'être quitté, Christine est partie, il y a Paul et Louise qui vont décider de se quitter, mais ils le feront après les vacances. Il y a William qui va tomber malade et qui va mourir. Et il y a le narrateur. Bon. Il y a une scène qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, qui a été commentée par la critique. C'est lorsque le narrateur est quasiment hypnotisé par le flux automobile, parce qu'il emménage dans un appartement qui se trouve donc tout près de la maison de la radio, et il y a des baies vitrées qui donnent sur la rive. Et à la fois, il éprouve un sentiment d'hostilité avec ce flux automobile, et il est fasciné. Il s'approche dans un mouvement ambivalent de fascination et de répulsion. Et je me demande si... il n'y a pas là, j'ai été tenté d'interpréter cette scène de ce personnage quasiment médusé par le flux automobile, s'il n'y a pas là quelque chose qui peut nous renvoyer à un certain nombre de propos qui sont tenus, échangés par les personnages tout au long du roman. Vous parlez de soliloque, mais on peut penser qu'à aucun moment les personnages ne dialoguent. Il y a une sorte de coupé-collé de cinq soliloques qui interviennent là. Et je me demande s'il n'y a pas dans ce flux automobile comme une métaphore du flux de parole que n'échangent pas les personnages, mais qu'ils profèrent.
C'est subtil comme interprétation, je ne sais pas. Il est certain que les... En tout cas, consciemment, je n'ai pas fait le lien entre les deux, ça c'est sûr. Mais c'est bien que d'autres le fassent. C'est sûr, il y a des dialogues, il y a des échanges, mais est-ce que les échanges sont jamais profonds? Finalement, ces gens-là arrivent à aborder des questions essentielles, notamment à un moment donné, Louise dit à Georges, qui vient de rompre mais qui ne veut pas évoquer sa rupture, elle lui dit, alors si j'ai bien compris, on n'en parle pas. Ce qui est un propos très intime, je veux dire, c'est quelque chose qui peut se faire effectivement entre amis, entre vrais amis, de ne pas en parler, mais de dire qu'on n'en parle pas. Après, c'est vrai que ces gens se cherchent, s'approchent, mais se connaissent mal. Et quant au flux automobile, j'ai pas fait le lien du tout, hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu en vrai et qui est absolument effroyable. Enfin, ce flux incessant et ce qui m'a permis de développer dans le livre, d'évoquer simplement une petite idée intéressante pour moi, c'est que bien qu'il y ait dans cet appartement un double vitrage qui atténue énormément le bruit de ce flux qui passe au ras de l'appartement. En fait, ce qui est infernal tout autant que le bruit, s'il n'était pas atténué, c'est la vision du flux incessant. Mais cela dit, il est dit aussi plus loin que finalement, ce flux automobile incessant qui passe, c'est des gens, c'est de la vie. Il y a quelque chose qui passe qui est de l'ordre de la vie et qui, d'une certaine façon, est une consolation pour le narrateur.
Alors, on va filer peut-être la métaphore, c'est-à-dire qu'il y a, non pas parce que je suis têtu, simplement pour questionner le texte, dans ce flux automobile, à Paris comme ailleurs, à Bordeaux aussi, le flux automobile parfois ne s'interrompt pas, mais il est ralenti, il y a des encombrements. Et vos personnages sont encombrés, dès l'incipit. Georges est encombré avec ce gâteau qu'il apporte, page 41, Jean est lui-même encombré. Vous employez souvent cet adjectif,
ah oui.
Relativement souvent. D'accord. relativement souvent pour et vous attribuez cet adjectif à vos personnages et à vos personnages masculins. Vous avez dit tout à l'heure que vous intéressez au temps, à son écoulement, autre métaphore hein, du flux, l'écoulement du temps, le temps qui passe, qu'on ne retient pas. Vos personnages sont fatigués, surtout les hommes. Les personnages masculins sont très fatigués, davantage que les personnages féminins.
Mais oui, c'est parce qu'en fait, le narrateur est un homme, parce que en fait, j'en suis un. Et donc, lui, il est très fatigué, le narrateur. Et en fait, je pense que les hommes fatiguent plus, oui. Enfin, la vie les fatigue davantage, ils sont moins résistants. Et puis les femmes, que je ne connais pas par définition de l'intérieur, sont dans mes romans de toute façon... là, les hommes sont vus par le narrateur aussi, mais les femmes aussi. Bah, elles sont peut-être vues encore un peu plus loin que les hommes. Je ne sais pas quoi trop dire de plus.
Alors, concernant les femmes, bon, l'on aperçoit la silhouette de Christine, on voit Louise... Christine, de très loin. On voit davantage Louise. Il y a Roberta, il y a Agnès. Il y a quelque chose, semble-t-il, qui est en train de se tramer du point de vue du narrateur avec l'une de ces femmes. Et on ne va pas dévoiler la fin du livre, mais il me semble qu'il y a un possible de ce point de vue.
Ouais. C'est comme dans Agatha Christie, en fait. Il y a trois femmes et ouais, il y a l'outsider, mais là vous en dites presque trop, parce qu'en fait pour moi dans le roman il y a quelque chose qui se trame, mais qui est pas forcément de cet ordre, mais qui est peut-être effectivement de cet ordre, parce que ce qui pourrait se tramer aussi, c'est une rencontre d'une autre femme.
Oui.
Qui n'est pas encore apparu. Donc là aussi, je ne trahis pas la fin. Mais il est possible que... Les romans, quand ce n'est pas des romans de guerre, sont forcément un peu le lieu de rencontres amoureuses. Donc on peut imaginer, comme le personnage est très, très fatigué, il dit à un moment donné, l'idéal, évidemment, ça aurait été de renaître. On se dit, tiens, il se réveille un peu là, il sort un peu de son pas de sa dépression, mais de son... C'est pas du tout de la dépression, il n'est pas du tout déprimé. Il a juste le poids des ans sur lui et quelque chose d'inabouti dans sa vie. Il a vécu plusieurs vies avant, il le dit, mais bon, on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque. Un personnage à qui manquerait rien, ce serait évidemment pas romanesque, donc il faut qu'il lui manque quelque chose. Alors voilà, je sais pas, je ne réponds pas à votre question, mais en tout cas, elle est légitime.
Il est dans une position, la position qu'il occupe est une position où il est maltraité, parce que effectivement, il envisage la possibilité de renaître, ce serait peut-être bien de renaître, mais on le flanque d'une paternité qu'il n'a pas voulu. Et du point de vue de l'instance narrative et peut-être de l'auteur, c'est un humour extrêmement violent.
Ben ça, c'est venu au détour d'une phrase. Et le narrateur dit en gros à cette femme, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle répond, j'en étais là, j'avais le blanc du papier en dessous, je dis, qu'est-ce qu'elle répond? Je me suis dit, bah tiens, je vais mettre, je suis enceinte. Et après, je me suis dit, oh là là, dans quel truc tu t'es mis? Tu vas être obligé de parler de la paternité, c'est emmerdant, il a 55 ans au moins... Est-ce que tu as vraiment envie de parler de ça? Et je me dis, non, justement, tu n'en as pas envie, mais justement, comme tu n'en as pas envie, tu vas le faire. Parce que c'est bien aussi de...
Il en a 59, je crois.
Ouais, non, c'est... je dis 55, parce qu'en fait, tous les quelques critiques que j'ai eues disent les quinquagénaires. Alors que pour moi, c'est 60 ans. Oui, vous savez que l'âge de la vieillesse recule. Et donc, je me dis, bon, allez, on va aller jusqu'à 60. Mais tout le monde me dit, non, arrête-toi à 50, parce que tu vas perdre énormément de lecteurs. Donc... Les quinquas, c'est très bien. Donc 59, là, vous trahissez le truc, mais c'est pas grave. Il faut être très attentif pour retenir ça.
Bah, si vous me permettez, je crois que Georges en a 55, mais Jean en a 59.
Ouais, non, c'est dramatique. Ouais. Ouais, ça se gâte. Et on non. disait quoi ? Oui.
Je voulais vous entendre sur la dimension humoristique qui est là, dans votre livre, une sorte d'humour au vitriol, parce que évidemment, il hérite, ce personnage, d'une paternité qui ne voulait pas, qui le surprend soudaine, etc.
D'une femme qui... provenant d'une femme qui ne l'aime pas.
Hein, non, du tout.
Ce qui est quand même un petit peu embêtant, s'agissant de
un petit peu paternité. Mmh.
Chose qui arrive au demeurant.
Qui lui propose d'ailleurs un arrangement
oui.
assez, de mon point de vue, assez compliqué. Il est très prudent par rapport à cela. Mais justement, ces personnages qui ne sont pas dans la verdeur, qui sont des hommes notamment faits, on voit bien que par rapport aux enfants qu'ils ont pu avoir, il y a une certaine distance là aussi. Ils n'interviennent pas du tout comme étant des pères. Leur vie passée, on va employer un terme qui connote, il la refoule un peu. Il l'occulte. Et quand les enfants apparaissent, ils apparaissent un peu contre eux, malgré eux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être aussi parce que je n'avais pas envie de m'encombrer d'enfants, justement. Ni d'enfants à naître, ni d'enfants grands. Voilà, je n'avais pas envie d'histoire familiale. C'est peut-être pour ça que j'ai fait en sorte que... Il y a effectivement une autre paternité, mais ancienne, où finalement l'enfant concerné a grandi et a pris ses distances. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que j'ai pas tellement envie de mettre en scène des rapports père-fils. Quoique je le mette en rapport, je le mets en scène finalement, mais très brièvement. Enfin, voilà.
Ouais. Je me demandais si la critique, qui a bien accueilli votre ouvrage, vous avez des articles qui sont tout à fait élogieux, est-ce qu'elle ne va pas un peu trop vite quand elle considère que vos personnages sont fatigués ? Parce que, en fait, ces personnages qui, au premier abord, sont fatigués, ils sont travaillés par le temps. Ils sont travaillés par la question de la finitude, la question de la mort. Ils sont travaillés par la question de l'amour. Ben, je serais tenté de dire ils sont travaillés par le vivant, parce que le vivant ne se déploie que dans le temps et est confronté à la finitude. Ces personnages sont bien vivants. Ils ne sont pas du tout ni épuisés, ni lâches.
Non, mais vous avez raison. Moi-même, je cède à cette facilité en disant qu'ils sont fatigués. Non, vous avez tout à fait raison. Et notamment Georges qui va vivre une aventure.
Avec Sam.
Avec de débile mental, adolescent, un âge avancé avec une personne. Enfin bon.
Généralement, c'est à 40 ans qu'on fait ça.
Ouais, mais moi, c'est que je suis en retard. Donc je fais tout après. Et donc je fais faire tout à mes personnages après. Et, mais. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais. Là, c'est pas tellement qu'ils sont fatigués, qu'il est fatigué, genre, c'est qu'il est juste à côté. Enfin, il est à côté de la plaque. Mais est-ce que moi, je sais pas, je connais beaucoup de gens qui sont à côté de la plaque. Enfin, ça fait partie aussi de l'humain, ça, d'être à côté de la plaque et de ne pas réussir à vivre la vie qu'on voudrait. Enfin, et de se donner les moyens, enfin, etc. Mais encore une fois, toujours plus intéressant de parler des ratages, des échecs et des insuffisances que de leur inverse.
Alors ces personnages, vous aviez un projet, vous aviez une intention. Vous êtes parti avec cette équipe de 5 personnages, hein, ou bien l'un, William ou Georges, est venu s'adjoindre pendant la rédaction. Vous êtes parti avec en fait, cette équation.
Non, moi, je suis parti, en fait, il y a 30 ans. J'ai commencé à écrire des romans où le personnage était absolument seul et où il connaissait un ou deux, enfin, une femme et peut-être un troisième pour faire un peu joli dans le coin. Et au fur et à mesure, je me suis dit, chose qui n'est pas du tout naturelle, tu vas essayer de mettre en scène un peu plus de personnages. Et alors là, on atteint sans doute mon maximum. C'est Voilà. Je me suis dit, tu vas en mettre un paquet, 5 au premier plan, et même d'autres derrière. Allons-y. Ça aussi, c'est contre moi que je l'ai fait. Mais ça m'amusait. Enfin, c'était aussi un défi d'essayer de mettre en scène plusieurs personnages, tout en gardant un narrateur. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... comme le disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, hein, c'est pas un roman choral. Voilà. Donc j'avais ce projet, effectivement, de mettre pas mal de personnages en scène. Dans Roulé, d'ailleurs, il y en a pas mal aussi. Il est seul tout au long du livre, mais à un moment donné, il se retrouve dans un endroit où d'un seul coup, il y en a quelques-uns qui viennent s'agréger. Et voilà, donc c'était un de mes projets. Mais là, le déclic, cela dit, n'est pas là. Le déclic, c'est Georges est arrivé avec un gros gâteau, qui était la première phrase.
Donc c'est le vrai Inkeep It.
Oui, c'est une phrase que j'avais dans mes tiroirs et puis depuis quelques années, c'est plutôt pour un atelier d'écriture, vous savez, on donne ça aux gens, et débrouillez-vous, écrivez la suite. Et j'ai essayé de me débrouiller d'écrire la suite.
Et la suite, c'est donc un livre.
Mais il y avait ce projet de groupe, de mise en scène d'un groupe, de parler de Paris, mais de situer le roman dans un cadre géographique immobile, etc. Il y avait tout ça. Et de cette liberté d'écriture plus grande, enfin, de longueur de phrase, de tout ça.
Mais de mon point de vue, enfin, je ne suis pas parisien, j'ai vécu à Paris, j'y ai travaillé, je trouve que vous parlez bien de Paris.
Ça, c'est un vrai compliment, parce que, encore une fois, ça m'est pas du tout, enfin, j'ai jamais fait, et c'était aussi une tentative, quoi. Je sais pas, d'ailleurs, je parle pas beaucoup de Paris, je parle de deux ou trois quartiers, pas plus, et notamment d'un. Qui ne sont d'ailleurs pas du tout mes quartiers d'élection. Hein. Encore que du côté de l'hôpital Cochin, je connais assez bien.
Oui, Port-Royal, Cochin, ouais. Tout cela. Si vous me permettez, ces personnages sont à la fois enfermés dans les rapports sociaux au sein de la ville, et en même temps, ils sont englués dans une parole. Et ils sont travaillés par le vivant. Il y a une contradiction pour eux. Ils ont du mal à tenir les deux bouts de leur position. Georges est journaliste, William est un jeune retraité, le narrateur est un éditeur. Ils ont un ancrage dans la société. Et puis en même temps, si vous me permettez, peut-être que l'expression que je vais employer va vous choquer, mais les propos qu'ils tiennent, les propos qu'ils se tiennent, c'est du babil, un peu. C'est un discours de surface.
Moi, ouais, je sais pas. Non, vous parliez tout à l'heure, je reprends sur une ancienne question, vous disiez ses amitiés ne se déroulent pas dans le cadre social. Uh-huh. Mais ça se déroule pas dans le cadre social, l'amitié. Je veux dire, depuis quand les amis, ça se voit en dehors du boulot. Après, si on se voit à l'intérieur du boulot, c'est autre chose. C'est des relations. Un journaliste connaît un journaliste, ça n'exclut pas l'amitié. Mais ce que je veux dire, c'est que les amis sont d'abord des gens qui se voient en dehors du cadre social. Donc ça ne singularise pas mes personnages par rapport à ça. Ce qui m'a permis, effectivement, de perdre totalement la question que vous m'aviez posée. Mais pas habilement, parce que je suis obligé de m'y recoller. Non, le babil, je sais pas. Je sais qu'il y a des dialogues tronqués. Je crois que les vraies questions sont derrière, mais elles sont pas forcément exprimées. C'est ça aussi.
Si vous me permettez, ce qui m'a beaucoup frappé,
oui, dites-moi.
Ce n'est pas... C'était sensible, il me semble. Je donne mon point de vue. D'enrouler, c'est déjà le cas, mais là... C'est beaucoup plus fort en ville. Le texte apparaît comme un long flot de pensées, de conscience, de mots échangés, toujours dans l'incertitude, le doute. Et puis, en quelque sorte, au milieu de la page, il y a une phrase ciselée qui relève un peu du latent. C'est-à-dire comme s'il fallait ce flux de choses anodines, insignifiantes, pour qu'à un moment, la pépite puisse émerger.
Ouais, ça, c'est... Je trouve ça très intéressant, ce que vous dites, parce que c'est effectivement un peu comme ça que ça marche. C'est-à-dire que je raconte une histoire. Malgré ma prétention au soliloque, je suis aussi beaucoup en extériorité, ce que vous appelez en surface, enfin, etc. Et puis, je n'écris pas un essai. Ah oui. Mais j'ai envie, au détour d'une phrase ou d'une autre, d'arriver à capter des choses, si on pourrait volontiers un très gros mot, qui sont peut-être pas des vérités, mais d'un seul coup un angle sur quelque chose de fondamental, notamment sur l'écoulement du temps, notamment. Je pense qu'il y a une phrase sur l'écoulement du temps et la façon dont on a cette conscience de cet écoulement qui est sans doute, pour moi, si on avait une raison pour avoir écrit ce livre, c'était pour d'avoir écrit cette phrase. Donc effectivement, ce que vous évoquez, ces phrases qui sortent d'un seul coup d'un truc apparemment uni, lisse, etc., c'est le processus de l'écriture qui fait que, effectivement, puis comme disait je ne sais plus quel poète, je crois bien que c'était Baudelaire, quand on écrit un sonnet, il vaut mieux que tous les vers ne soient pas bons, parce que comme ça, ceux qui sont bons ressortent. Et je crois que c'est une économie naturelle au roman que de ménager des temps forts voilà, sur le plan de l'énonciation.
Si vous permettez, ma sensibilité m'a fait réagir à une page, celle-ci. On ne se connaît pas tellement, tous les trois, a-t-elle ajouté. On ne s'est jamais beaucoup parlé. Je ne trouve pas, a dit Georges. Ça dépend de ce qu'on entend par connaître, ai-je dit courageusement. Je veux dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on vit, a dit Louise, ce que les autres vivent. Ce n'est pas tout à fait vrai, a dit Georges. Vous êtes au courant pour Christine, par exemple. Ça, c'est les choses, saillantes, a dit Louise. Je parlais des choses souterraines. Par exemple, a demandé Georges, là je comprends, a répondu Louise, l'idée qu'on se fait de soi, la sorte de chemin qu'on suit. Et j'ai remarqué pour la première fois qu'elle avait un soupçon de verre dans le regard. Il m'avait fallu tout ce temps pour le voir. Ça t'attriste ? A dit Georges. Pas exactement, a dit Louise. Et vous ? Georges a hésité, il m'a regardé. Et j'ai dit de nouveau courageusement que ça faisait longtemps que je ne m'attristais plus. Peut-être parce que j'avais commencé à m'attrister il y a bien longtemps de ça, maintenant, et qu'à force tout se perdait dans les origines, à la préadolescence, et qu'ensuite il n'y a plus qu'à tenir, à voir des films à aimer, ai-je ajouté en me mordant les lèvres. Pour moi, cette page, elle est tout à fait significative de ce que l'on évoque.
C'est vrai qu'il y a des choses dans cette page-là,
absolument,
pour le coup.
Absolument.
Ou alors, oui, là, il y a du lisse, oui. mais il y a surtout pas du lisse, là. Il y a surtout du déclaratif, là. Hein, ouais. Il y a surtout de l'émergence, oui. Voilà. Et effectivement, ouais, je contresigne. C'est des choses que j'ai voulu faire passer, mais faut...
C'est comme si le Latin vient avec sa corne crever un peu ce discours de surface, cette parole.
C'est même dit presque explicitement qu'il y a du Latin et du Patin, et que voilà, c'est la conjugaison de ces deux choses qui fait qu'il y a de la vie et qu'il y a aussi, comme on peut le constater à la lecture, de la relation. C'est-à-dire que là, dans ce passage-là, qu'on ne vienne pas me dire que les personnages ne communiquent pas. Ils communiquent dans des difficultés, mais ils communiquent. Non, parce qu'on m'a dit aussi que j'écrivais sur la non-communication, sur l'incommunicabilité.
On a écrit que vous écriviez sur la difficulté d'être au monde.
Mais ça, c'est vrai.
Oui. Christian Oster, je vous remercie
vivement. Merci à vous.
Au nom de la librairie, au nom du public, merci pour ce dialogue.
Merci.